Europe Matin. Ombline Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 dans ce 5h-6h30. Nous sommes le jeudi 26 août et j'espère que vous êtes en pleine forme. Nous, on l'est. Hein.
Oui, absolument. On est ravis en tout cas de vous accompagner de bon matin, de vous informer, vous divertir, voire pourquoi pas vous faire danser. À qui appartient cette jolie voix, Ombline ?
La voix de celle qui, avec les Fugees, a dominé le hip-hop mondial au cœur des années 90. Seule, elle signe à nouveau et dans la foulée un chef-d'œuvre, son unique fait d'armes à la fin du mois d'août 98. Sort l'album The Miss Education of Lauryn Hill. L'unique album de Lauryn Hill dans la partition à 6h20.
De la musique en dessert donc, mais avant ce sera de l'actu en entrée et en plat principal avec cette question, notamment alors que les vendanges vont bientôt débuter, à quoi va ressembler le cru 2021 ?
Des épisodes de gel, la sécheresse, les incendies, des vignes malades attaquées par le mildiou, ces vendanges s'annoncent mal, la récolte française de vin pourrait être réduite de plus d'un quart du jamais vu depuis 45 ans.
Et vous en parlerez, Ombline, avec votre invité à 5h40, Thiébaut Hubert, viticulteur en Côte d'Or, il représente les vignerons de Bourgogne.
Autre question à la une ce matin, Jean-Luc Mélenchon peut-il vraiment créer la surprise à la présidentielle ?
Lui, en tout cas, y croit. Les Français, un peu moins, si l'on se réfère aux études d'opinion. En tout cas, les Insoumis se retrouvent à partir d'aujourd'hui pour leur journée d'été. Quelle stratégie pour 2022 ? On en parlera avec mon invité à 6h10, Manuel Bompard, député européen, la France Insoumise.
Et puis le jeudi, c'est gastronomie. Olivier Pouls nous emmènera à Dijon. Alors, non pas pour sa célèbre moutarde, en tout cas pas pour cette fois, mais pour sa crème de cassis. On va s'autoriser exceptionnellement. Exceptionnellement un petit kir à 6h moins le quart.
Voilà pour le programme jusqu'à 6h30. Excellent réveil à tous sur Europe 1.
On commence avec la météo et avec Anissa Haddadi. Bonjour Anissa.
Bonjour Ombline, bonjour Julien, bonjour à tous.
Et le ciel se couvre ce jeudi.
Et oui, malheureusement, je viens avec des mauvaises nouvelles. Après la belle journée d'hier, qui était la plus belle journée de la semaine, il fallait s'y attendre. Le changement commence dès aujourd'hui. Alors ça se passe au nord de la Seine, en plus ça nous concerne, Julien, je suis désolée. Des Hauts-de-France jusqu'à la région parisienne et même jusqu'en Alsace. Ce matin, les nuages bas sont nombreux. Soyez prudents si vous prenez la route, il y aura pas mal de brume matinale et de brouillard. Et puis toute la journée, entre la Normandie et l'Alsace, donc vraiment sur l'extrême nord du pays, nous aurons un espèce de plafond gris qui va persister toute la journée sans que les éclaircies n'arrivent à percer. Quelques gouttes également prévues dans le nord-est. Au sud de la Seine, là c'est une très belle journée, le soleil brille dans un ciel sans nuages. Attention, Mistral et Tramontane soufflent dans le sud et le vent d'ouest se lève sur le Var et la Corse. Les températures, elles ont bien baissé. On a 6 degrés à Montluçon ce matin, 8 pour Aurillac, 13 à Paris et 20 à Nice. Ouais, que de bonnes nouvelles.
Que de bonnes nouvelles, c'est ça ? Je suis pas sûr qu'on va vous remercier. Merci tout de même, Anissa Haddadi.
À tout à l'heure.
Il est 5h, c'est le premier journal de cette matinale.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
Nous ne pouvons plus sauver nos vies. Elles sont entre vos mains. Ne nous laissez pas mourir.
L'appel à l'aide des Afghans menacés par le retour des talibans à Kaboul. Les Occidentaux accélèrent les évacuations, mais tous ne seront pas exfiltrés. La France fera partir son dernier avion aujourd'hui. Certaines grandes villes préparent déjà l'accueil des réfugiés. Exemple à Strasbourg, où un hôtel a été réquisitionné. L'éducation nationale organise la vaccination des élèves de plus de 12 ans. Objectif, atteindre 60% d'élèves vaccinés d'ici la Toussaint. La fin du quoi qu'il en coûte, le gouvernement va mettre en place des mesures plus ciblées pour le soutien aux entreprises fragilisées par la crise. Et puis les premières sanctions après les violences du match Nice-Marseille, un dirigeant de l'OM suspendu et un match à huis clos pour le GC Nice. Et le journal de 5h vous est présenté par Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour Julien, bonjour Ombline, bonjour à tous. Le compte à rebours a donc commencé pour les dernières évacuations à l'aéroport de Kaboul. La France doit faire partir son dernier avion aujourd'hui. Au total, 2000 Afghans menacés par le retour au pouvoir des talibans auront été exfiltrés par les autorités françaises. Mais sur place, il y a encore de nombreux candidats à l'exil qui restent tout bonnement coincés. Et pour eux, l'angoisse grandit forcément, comme dans cette famille afghane que vous avez pu contacter, Marion Gauthier.
Oui, Mohamed risque un dernier trajet vers l'aéroport de Kaboul. Il espère qu'il n'aura pas à revenir sur ses pas. Certains parlent d'une chasse à l'homme lancée dans la capitale contre ceux, comme lui, qui ont collaboré avec les forces étrangères ou le gouvernement de la République d'Afghanistan.
Les rues sont vides, pleines de talibans. Tout le monde a peur. Je ne sors pas, je reste à la maison. J'ai reçu tellement de messages de menaces. Ils me disent « Nous sommes au pouvoir maintenant, ton temps est passé ».
Le sexagénaire est nerveux, usé par des jours d'attente, de plans élaborés puis avortés. Hier, un bus devait l'emmener sur le tarmac et ainsi éviter les talibans. Bus annulé à la dernière minute.
Je suis en colère. J'ai essayé plein de fois d'aller à l'aéroport. J'ai reçu des lettres du ministère. Mais je ne peux même pas entrer à l'aéroport. Il y a trop de monde. Et maintenant, la route pour aller à l'aéroport est bloquée. Le temps nous manque. Nous devons y aller.
Le compte à rebours est lancé. Aujourd'hui, parmi des milliers d'Afghans, Mohamed et sa famille vont tenter de se frayer un chemin jusqu'au dernier avion français.
Et dans cet aéroport de Kaboul, des milliers de personnes campent toujours sur place dans l'espoir d'obtenir une place dans un avion. Au total, 88 000 personnes ont été évacuées depuis une dizaine de jours sous le contrôle de l'armée américaine.
En France, plusieurs municipalités s'organisent déjà pour l'accueil de ces réfugiés.
C'est le cas à Strasbourg où 150 d'entre eux sont attendus ce matin. Pour cela, un hôtel a été réquisitionné. Arthur Mbachet, notre correspondant, s'est rendu sur place.
Dernier préparatif hier après-midi ici à l'hôtel Mercure qui va accueillir les 150 réfugiés afghans. Les prestataires s'organisent.
Donc on livre en gros une lunchbox pour le déjeuner et le dîner. Et puis pour le petit déjeuner, on va mettre à disposition les denrées nécessaires pour assurer un petit déjeuner complet.
L'hôpital va installer ici une cellule de soutien psychologique, explique Arnaud Fritsch de l'association Foyer Notre-Dame qui coordonne l'opération.
On parle du traumatisme lié à l'exil avec des conditions d'évacuation extrêmement complexes pour ces personnes qui ont voyagé dans un avion militaire sans siège, qui arrivent à Roissy et puis qui derrière vont encore faire 8 heures de bus. Donc on va faire appel au service de l'ARS et à l'antenne de la Croix-Rouge qui sera déployée.
Sur la menace que pourraient représenter certains de ces réfugiés, il faut être lucide, dit la préfète Josiane Chevalier. On n'est pas naïf, dit-elle.
Il y a un filtrage qui est fait à l'arrivée à Roissy par la Direction générale de la sécurité intérieure, qui a évidemment des services localement. On suit, vous le savez bien, un certain nombre de personnes radicalisées. Et si, bien évidemment, il y a des cas, nous les suivrions avec la plus grande attention localement.
L'opération va durer 15 jours, 3 semaines maximum. C'est un sas d'entrée sur le territoire, dit la préfecture. Un sas de mise à l'abri. Strasbourg, Arthur Mbachet, Europe 1.
10 mois de prison avec sursis pour l'exilé afghan qui avait enfreint les règles de sa mise sous surveillance lors de son arrivée à Paris. L'homme faisait partie du groupe de 5 Afghans soupçonnés d'avoir été en lien avec les talibans avant leur évacuation de Kaboul.
5h05 sur Europe 1. On en vient à l'épidémie de Covid et ces quelques indicateurs qui incitent à l'optimisme.
Oui, alors optimisme mesuré cependant. Même si c'est vrai, le nombre d'admissions quotidiennes en soins critiques dans les hôpitaux est en léger recul. C'est le résultat sans doute d'une campagne de vaccination qui progresse. Une vaccination qui va concerner les élèves de plus de 12 ans dès la rentrée prochaine. En tout cas, le ministère de l'Éducation nationale s'organise pour cela, Virginie Riva.
Oui, l'objectif selon le cabinet du ministre, c'est d'atteindre les 60% d'enfants et adolescents vaccinés au plus vite. Actuellement, ils sont seulement 36% à avoir un schéma vaccinal complet. Cette vaccination, elle va pouvoir avoir lieu dès la rentrée ou quelques jours après, et ce, jusqu'aux vacances de la Toussaint, au sein même des établissements, dans les collèges, les lycées ou bien dans des centres éphémères. Cette solution sera notamment celle retenue pour les zones éloignées des grands centres de vaccination ou bien pour les établissements qui ont peu de place. Certaines communes ont déjà dit qu'elles mettraient à disposition des bus pour le transport des élèves. L'Éducation nationale recrute quant à elle 700 assistants pour gérer cette logistique. Du côté des directeurs d'établissement, il va falloir rapidement recueillir les autorisations parentales, autorisations qui ne sont plus requises pour les plus de 16 ans. Le ministère tient néanmoins à ce que les parents soient informés dès qu'une campagne de vaccination est proposée.
Virginie Riva, spécialiste des questions d'éducation à la rédaction d'Europe 1. Rappelons qu'aux Antilles, la rentrée des classes a été repoussée de 15 jours en raison d'un regain incontrôlable de l'épidémie et du variant Delta. Malgré un léger recul du taux d'incidence, les hôpitaux de Guadeloupe et de Martinique restent complètement saturés.
Le quoi qu'il en coûte, eh bien, c'est fini. Bruno Le Maire l'a confirmé hier devant les patrons du MEDEF.
À l'occasion des journées de la rencontre des entrepreneurs de France, pas question d'abandonner, attention, en rase campagne les entreprises fragilisées par la crise sanitaire, mais désormais, le gouvernement va appliquer du sur-mesure pour les secteurs impactés. Et cela semble convenir au MEDEF, Carole Ferry.
pas une voix ici pour s'opposer à la fin du quoi qu'il en coûte. Mettre fin aux aides du gouvernement, c'est assurer la nécessaire liberté des entreprises face à l'État, selon le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux. Une idée à laquelle adhère totalement Jean-François Faure. Il est président d'une entreprise d'achat de métaux précieux. Au coffre.com.
Les entrepreneurs en fait n'ont pas monté des entreprises pour être financés par l'État. Quand on est entrepreneur, alors moi je suis en format start-upper, je peux vous le dire, c'est en fait on se lance parce qu'on croit à un projet, on a envie de le développer et en fait dans cette équation-là, il n'y a pas l'État. S'il y a des difficultés, eh ben, on peut compter sur l'État de manière ponctuelle, mais en aucun cas de l'assistanat.
Alors oui, il faut continuer à soutenir les secteurs en souffrance, là encore l'idée fait l'unanimité, mais avec des mesures finement ciblées et calculées selon Omer Bourré, directeur général de Vicanis.
L'idée, c'est pas de se retrouver, par exemple, dans un an avec des restaurants zombies qui n'ont pas vocation à exister parce qu'ils seraient uniquement soutenus par des aides. Vous savez, c'est un petit peu comme ces gens qui, malheureusement, prennent des mauvaises substances. Quand on vous les coupe, eh bien là, vous passez par une phase un petit peu rude qui peut être un peu violente.
Il faut donc passer, selon lui, par un véritable sevrage des aides aux entreprises, progressif et limité dans le temps.
Carole Ferry, aux journées du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp. L'information de la nuit à l'étranger, c'est la peine de mort confirmée aux États-Unis pour l'auteur de la fusillade raciste dans une église de Caroline du Sud. C'était en 2015. 9 paroissiens noirs avaient été froidement abattus par Dylan Roof, un suprémaciste blanc qui voit donc sa peine confirmée.
Le sport, le foot et d'abord cette grosse déception pour Monaco.
Oui, effectivement, l'ASM qui n'ira pas en Ligue des Champions cette saison. Les joueurs de la principauté ont concédé le match nul hier soir face au Shakhtar Donetsk. De partout, ils avaient été battus 1-0 à l'aller. Ils sont donc éliminés et renversés et reversés, comme on dit, en Ligue Europa. Notez que pour la Ligue des Champions, on connaîtra le tirage au sort ce soir pour le Paris Saint-Germain et pour Lille, bien sûr.
On suivra ça avec attention. Toujours en foot, les premières sanctions après les incidents du match Nice-Marseille dimanche dernier.
Oui, la commission de discipline de la Ligue professionnelle a rendu ses premières décisions après avoir auditionné les dirigeants des deux clubs. Et la tendance, Cyril de la Monnerie, est plutôt à la sévérité.
Oui, la commission de discipline de la Ligue a pris 2 mesures à titre conservatoire, dont une très forte. Le prochain match de Nice, prévu samedi prochain contre Bordeaux, se déroulera à huis clos. C'est un nouveau tour de vis après la décision du préfet de Nice qui avait lui ordonné la fermeture d'une tribune lors des 4 prochaines rencontres. Deuxième décision, la suspension de Pablo Fernandez, le préparateur physique de l'OM, avait asséné une droite à un supporter. On l'a vu sur les images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. À ce stade, le Marseillais Dimitri Payet, qui avait reçu une bouteille à la nuque avant de la renvoyer vers les tribunes, n'est pas sanctionné. La Ligue se donne une quinzaine de jours pour statuer. À l'issue de l'instruction, le mercredi 8 septembre prochain, la commission de discipline prendra donc des décisions concernant les joueurs, les supporters, mais aussi le sort du match. Pour le moment, le résultat n'est pas comptabilisé, mais dans 15 jours, la Ligue pourrait confirmer la victoire de Nice 1-0, inverser le résultat ou faire rejouer la rencontre, par exemple, sur terrain neutre.
Cyril de la Morinerie, du service des sports d'Europe 1.
Merci beaucoup Lionel Gougelot pour ce journal. On vous retrouve
à 6h30.
À 6h30, pétante.
Et à 5h10 sur Europe 1, c'est l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Deauville et mon pari gagnant sera le 301 Sapiens. Entraîné à Marseille, mais stationné depuis début août sur la côte normande, ce poulain expérimenté reste sur une excellente deuxième place le 12 août dans une épreuve similaire sur le parcours qui nous intéresse en dépit d'un déroulement de course peu avantageux. Toujours aussi bien le matin, et nanti cette fois d'un numéro de corde plus favorable dans les stalles de départ, il devrait pouvoir justifier la confiance, sans réserve, affichée par son entourage. Alors notez bien, pour cet après-midi à Deauville, réunion 1 dans la troisième course, le numéro 1, Sapiens.
C'est noté, merci beaucoup Thierry Léger, on vous retrouve dans une petite demi-heure pour vos pronostics du Quintet.
Ce matin dans la presse, quels sont les articles qui sortent du lot selon nous?
Oui, ceux qui vont vous faire sourire nous, ou bien vous révolter selon nous. C'est le pressing et c'est dans moins d'une minute sur Europe 1, tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
5h12, j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin. Un café pour la route, Europe 1 dans vos oreilles et vos fidèles serviteurs pour ouvrir le kiosque de cette matinale.
Oui, parce que c'est le pressing, le meilleur de la presse raconté dans la bonne humeur. Et vous le savez, plus on est fou, plus on rit. On accueille Martin Lange dans ce studio. Bonjour bon. Martin.
Bonjour Martine, bonjour Julien, bonjour à
tous. Vous êtes fous comme nous ?
Je suis comme un petit fou.
C'est parti alors. Et on jette un regard sur les unes.
Oui, avec plaisir. On commence avec aujourd'hui en France. Rentrée, la présidentielle en ligne de mire avec, pour illustration, une photo d'Emmanuel Macron, le président dont les troupes s'organisent pour 2022. En attendant, Jean-Michel Blanquer fait le pari d'une rentrée scolaire normale. C'est la une du Figaro à l'occasion tout à l'heure de la conférence de presse de rentrée du ministre de l'Éducation nationale. Conférence au cours de laquelle Blanquer va défendre son choix de maintenir le cap d'une école ouverte malgré le Covid. Et puis une question pour terminer, Paris résigné, point d'interrogation. Voilà ce que l'on peut lire à la une de l'Équipe avec pour illustration Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG qui, vous le savez, fait l'objet d'une offre de 160 millions d'euros de la part du Real Madrid. Voilà pour les unes. Omblin, on commence avec vous. Quel article avez-vous retenu ?
Alors d'abord, cette question, est-ce que vous vous rappelez où vous étiez le samedi 14 août ? C'était pas si longtemps que
oui,
ça.
Oui. Bon. J'étais à Venise.
En tout cas, voilà.
En Bretagne, sous la pluie.
Ah, c'est vrai, vous n'aviez pas eu de soleil ce jour-là. Parce que si vous étiez en France, il faisait très chaud et très beau. C'était un épisode caniculaire en ce week-end du 15 août avec des températures, alors c'est vrai, dans le sud, qui sont montées au-delà des 37 degrés au bord de la Méditerranée et en Occitanie. Et bien figurez-vous que ce jour-là, ce 14 août, au beau milieu du Groenland, à 3200 mètres d'altitude, il faisait 0,48 degrés. Donc un petit peu plus de 0 degré. Et
au
je
Groenland.
Peux vous dire que c'est chaud aussi. Alors pas caniculaire, mais presque pour l'endroit. Conséquence, et c'est surtout ça qui est exceptionnel, la conséquence de ce mercure trop élevé, eh bien il a plu. Il a plu au Groenland. C'est le titre de cet article à lire dans La Croix ce matin, direction la station scientifique Summit, perchée sur les hauteurs, au centre de la calotte glaciaire du Groenland, entourée de neige. Elle est installée ici depuis 1989 et la première parcelle de terre est à 400 km. Et bien, le 14 août dernier, vers 5 heures du matin, sur les fenêtres de la station scientifique Summit, des gouttelettes. Et ça, c'est du jamais vu, des gouttelettes, donc de la pluie à cet endroit sur notre terre où il ne pleut jamais. Il a plu même par intermittence toute la journée ce jour-là. Alors, pour se rendre compte du phénomène, c'est l'équivalent de trompe d'eau en France.
Ah oui ?
La cause, les restes du dôme de chaleur qui s'est abattu cet été sur l'Amérique du Nord. Alors, mercure,
on s'en
souvient. Oui, qui affiche 0,48 degrés, ne monte pas au-dessus normalement des moins 10 degrés en plein été. En août, au Groenland, c'est d'ailleurs la fin de l'été. En moyenne, au milieu de la calotte glaciaire, il fait moins 32 degrés. Donc, ce qui est hélas de moins en moins exceptionnel ici, ce sont les épisodes de fonte qui se multiplient. Les scientifiques restent plus que jamais en alerte. Il a plu au Groenland, c'est inquiétant quand même, il faut le dire, et c'est dans La Croix.
C'est d'autant plus inquiétant que à l'endroit, cette station, la Summit dont vous nous parliez, je crois qu'elle est à plus de 3000 mètres d'altitude.
C'était exactement 3260 et quelques.
Donc même à nos latitudes, qu'il pleuve au-delà de 3000 mètres, c'est relativement rare déjà.
Sûr.
Donc au Groenland, ça relève de l'exceptionnel.
Exactement.
Merci beaucoup Omblin. Martin, à vous.
Oui, avec une conséquence inattendue de la pandémie, une de plus, la pénurie de munitions pour les armes à feu aux États-Unis. Alors, depuis plusieurs mois, les Américains se ruent sur les pistolets automatiques et autres fusils d'assaut. Il y a plusieurs explications à ce phénomène, les émeutes lors des manifestations contre les violences policières, puis aussi la crainte de nouvelles restrictions voulues par le président Joe Biden. Près de 40 millions d'armes à feu ont ainsi été vendues en 2020.
40 millions. Sur une population de 300 et quelques millions, quoi.
C'est un record historique, jamais autant d'armes avait été vendu aux États-Unis et la tendance ne faiblit pas en 2021. Problème, pour faire fonctionner une arme, eh bien, il faut des balles. Et en ce moment, de l'autre côté de l'Atlantique, il n'y en a plus, ou alors un tarif prohibitif pour certains calibres. Leur prix a quadruplé. Par exemple, pour un 38 mm, c'est le calibre le plus populaire aux États-Unis, comptait $60 pour une boîte de 50 cartouches, alors que la boîte coûtait seulement $15 avant la pandémie.
Ça fait plus d'un dollar la balle.
Exactement. À chaque fois que vous appuyez sur la gâchette, c'est un dollar et demi qui part en fumée, raconte un instructeur. Cette pénurie, elle a en fait été accentuée par un phénomène économique qu'on connaît bien. C'est l'effet bull whip ou coup de fouet en français. Le consommateur anticipe en fait la pénurie future et donc il participe indirectement. C'est ce qui s'est passé. Exactement, c'est ce qui s'est passé lors du premier confinement avec le papier toilette ou les pâtes. Vous vous souvenez peut-être de ces images dans les supermarchés. Et bien, les Américains, eux, ont fait des réserves de balles, quitte à vider les rayons et à faire monter les prix. Alors, cet effet coup de fouet n'est pas la seule explication. Les fabricants ont aussi été frappés de plein fouet par la hausse du prix du cuivre, c'est le métal qui compose les balles. Dans un marché mondial hyper concurrentiel, son prix s'est envolé de 17% depuis le 1er janvier. Et les passionnés de tir sportif ne sont pas les seuls à en subir les conséquences, puisque même dans la police américaine, on commence à compter ces balles. Les Américains se sont rués sur les armes et manquent maintenant de munitions, c'est-à-dire sur le site Slate.
Je ne suis pas sûr que ça soit une mauvaise chose, finalement.
C'est ça, en fait. Du coup, une arme à feu sans balles, c'est beaucoup moins dangereux.
C'est beaucoup moins dangereux. Ouais, oui, on peut voir les choses comme ça.
Voilà, ouais. Ça. Donc finalement, c'est une bonne nouvelle.
Le fait qu'ils en achètent toujours plus, je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne nouvelle.
Que cette pénurie perdure, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Martin. Et on termine ce tour de table avec vous, Julien.
Et cette interview savoureuse à lire ce matin dans le Figaro. Savez-vous qui est Bertrand Gachot ?
Non.
Pas tant, non.
Non.
Enfin, ce nom ne me dit rien.
Bon, je vous donne un indice.
Bon, c'est clair, un pilote de Formule 1, ouais.
C'était un pilote de Formule 1 qui, pour une broutille, a vu sa carrière s'arrêter net au profit d'un futur septuple champion du monde. Tout commence le 10 décembre 1990. Bertrand Gachot est alors pilote au sein de l'écurie Jordan. Et ce jour-là, il est à Londres, embourbé dans les embouteillages, alors pas avec une Formule 1, mais avec une voiture normale, comme celle de vous et moi, quand un taxi force le passage et lui coupe la route. Les esprits s'échauffent, le chauffeur saisit la cravate de Bertrand Gachot, qui réplique en l'aspergeant de gaz lacrymogène. Le taxi porte plainte, et puis plus rien, pas de nouvelles pendant 8 mois, jusqu'au 13 août 1991. Deux semaines avant le Grand Prix de Belgique, le pilote français est convoqué au tribunal, verdict 18 mois de prison ferme.
C'est franchement sévère quand même. Ah 18 mois de prison ferme.
Oui, pour avoir aspergé de gaz lacrymogène. Et la raison, elle est simple, c'est qu'en Grande-Bretagne à l'époque, une bombe de gaz lacrymogène, c'était la même chose qu'une arme à feu sur le plan pénal. Gachot file donc au cachot en attendant son procès en appel. Et c'est la stupeur au sein de l'écurie. Il faut trouver un remplaçant en urgence pour le prochain Grand Prix. Ce sera un petit jeune Allemand de 22 ans, un certain
Michael Schumacher.
Bertrand Gachot, qui n'a pas la télévision en cellule, l'apprend par la presse, il est effondré. D'autant que Schumi, pour les intimes, brille immédiatement sur la piste. Alors le Français pense très sérieusement, et il le dit dans l'interview, à s'évader. Il fait des repérages, échafaude un plan, il rencontre même deux autres détenus polonais prêts à se faire la belle avec lui. Alors au final, Bertrand Gachot ne tente rien, il est libéré deux mois plus tard après son procès en appel. Il prend directement un vol pour le Japon, persuadé qu'il va pouvoir récupérer son volant pour le Grand Prix de Suzuka. Mais tu es fou, lui répond son patron, tu étais en prison. En clair, ta carrière est terminée. Alors Bertrand Gachot a quand même pu piloter à nouveau quelques courses en F1 dans une autre écurie, mais c'était déjà trop tard pour briller. Un an, jour pour jour, après ses débuts, son ex-remplaçant Michael Schumacher remportait le Grand Prix de Belgique. On connaît la suite.
Voilà qui conclut le pressing du jour. Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour le Journal des Sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 26 août, c'est le journal permanent avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Dernière ligne droite des évacuations à Kaboul. Les États-Unis partiront le 31 août prochain. Leurs alliés vont devoir leur laisser le champ libre. La France s'apprête à réaliser son dernier vol. Résultat, l'angoisse monte pour des milliers d'Afghans prêts à tout pour fuir leur pays aux mains des talibans. Au total, 88 000 personnes ont déjà été exfiltrées. Bonne nouvelle sur le plan sanitaire, la situation semble se stabiliser. En France, selon le gouvernement, les principaux indicateurs ralentissent. Un peu plus de 71% de la population a reçu sa première dose. Seule exception, les Antilles, qui sont encore dans le dur de l'épidémie. Le confinement en Guadeloupe est prolongé jusqu'au 19 septembre. Partout, la rentrée scolaire a été décalée. Enfin, le Paris Saint-Germain dit non à la proposition de transfert du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Selon son directeur sportif, l'offre d'environ 160 millions d'euros n'est pas suffisante pour l'attaquant star.
Merci Élise Dangean. Prochain journal, 5h30 avec Christophe Flamard.
Europe 1. Bon réveil sur Europe 1, il est 5h21 et à 5h21, c'est notre coup de projecteur quotidien. Les initiatives en France, ces entreprises, elles sont des associations, ce sont des élus. Ils osent faire bouger les lignes. Ce matin, Julien, direction la région lyonnaise où des fabricants de vélos électriques et de batteries ont décidé de s'unir en investissant dans une usine de montage mutualisée.
Bonjour Anne-Sophie Kesticker.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la présidente de DoctiBike, spécialiste français des batteries de vélo à assistance électrique, et vous êtes aussi à la tête d'un cluster. Alors que nos auditeurs se rassurent, il n'est pas question ici de Covid, mais de mobilité durable. C'est une coopérative, un regroupement d'entreprises, c'est ça ?
Tout à fait. L'objectif, en fait, de ce cluster, c'est de rassembler les industriels et les passionnés de la mobilité pour pouvoir créer des synergies business, innovation, recrutement, formation.
Alors, combien d'entreprises ont rejoint ce cluster MAD ? C'est comme ça qu'il s'appelle, je crois.
Tout à fait. Donc, le cluster MAD, Mobilité Active et Durable, parce qu'on parle de vélo, mais pas que, rassemble plus de 80 adhérents qui sont situés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Lesquels, par exemple, comme entreprise, comme marque que l'on pourrait connaître ?
Alors, par exemple, vous avez AdBike, qui est une solution qui permet de transformer un vélo en vélo cargo. Vélogic, qui est le leader de la maintenance de vélos en France. Vous avez Lime, Dot, qui s'occupe de la gestion des trottinettes électriques dans les villes. Ou encore Bénure, qui développe un vélo cargo à destination des personnes en situation de handicap. Donc vous voyez, c'est assez large, exactement, avec des produits, des services, de la formation autour surtout de la promotion de la mobilité.
Alors vous vous regroupez et comme Omblin le disait en introduction, vous allez aussi investir dans une usine de montage mutualisé qui devrait voir le jour en début d'année prochaine. C'est quoi l'objectif de cette usine ?
Alors exactement, l'objectif en fait, c'était de se mettre ensemble pour pouvoir localiser un espace industriel qui permette d'assembler des vélos en collaboratif. Donc c'est un investissement de près de 800 000 euros qui va être mis en place et qui va permettre à une petite dizaine d'entreprises de commencer à se rassembler au sein d'une coopérative et à assembler des produits ensemble. L'objectif ici, c'est de pouvoir être un petit peu moins dépendant de l'international, de retrouver une souveraineté sur l'assemblage de ces produits et d'avoir la possibilité de faire du circuit court, du recrutement également en local et de créer de l'emploi surtout.
Est-ce qu'il y a aussi l'idée derrière de créer une centrale d'achat commune pour, je sais pas, négocier au mieux les prix des matières premières et des composants ?
Pourquoi pas ? C'est un sujet qu'on étudie actuellement.
Est-ce que grâce à cette usine, vous pourriez, vous, Adoctibike, être en mesure, à terme, j'entends, de fabriquer vos batteries en France ?
Tout à fait. Alors, Adoctibike fabrique déjà une grande partie de ses batteries en France. Notre rôle et notre mission, c'est vraiment de pouvoir assembler des batteries et proposer également du SAV, du reconditionnement et de la réparation en France. Donc, tout à fait, ça va être un partenariat important pour nous.
Vous le disiez tout à l'heure, il y a une grande dépendance dans ce milieu aux composants, aux produits qui viennent d'Asie. Est-ce que ça pourrait changer la donne à terme ?
Alors, si vous voulez, les composants initiaux, notamment pour les batteries, dans le cadre de Adoctibike, l'ensemble des cellules aujourd'hui sont fabriquées en Asie, sont fabriquées au Japon, en Chine. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de gigafactories qui sont en train de se mettre en place en Europe. Et on est très heureux de pouvoir se dire que d'ici 2 à 3 ans, on sera capable d'acheter des cellules en Europe pour les assembler en France, ici à Villeurbanne, par nos équipes. On travaille également beaucoup sur l'économie circulaire et sur le réemploi de composants pour pouvoir proposer en fait à nos clients de la réparation et du réemploi à la place d'un remplacement de produit.
Cette usine, elle pourrait créer combien d'emplois à terme ?
Alors, chez Adoctibike, on a une dizaine d'emplois qui sont ouverts sur la fin de l'année. Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de personnes et on sera 50 d'ici la fin de l'année prochaine.
D'ailleurs, si j'ai bien compris, votre progression, votre développement a été fulgurant ces derniers mois, ces dernières années.
Tout à fait. On a profité, comme le reste de la filière, de l'essor du vélo, en fait, dans cette
crise,
période
on peut le dire,
de crise
sanitaire.
COVID. Tout à fait, exactement. Le vélo était vraiment et reste un geste barrière. Et donc, chez Adoctibike, nous, on s'occupe vraiment du SAV et de la durée de vie des batteries. Donc, on a un avenir intéressant devant nous.
Donc, vous recrutez ?
Exactement. On recrute, on s'exporte également avec une première filiale en Allemagne qui sera créée au mois d'octobre, donc tout prochainement, pour pouvoir également servir les pays européens qui sont proches de chez nous.
Merci beaucoup Anne-Sophie Kestiker d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de Adoctibike et du cluster MAD pour mobilité active et durable. Regroupement d'entreprises, on vient de l'entendre, qui va donc investir prochainement dans une usine de montage mutualisée. À très bientôt sur Europe 1.
Merci à vous. Europe 1. Je t'aime, comment on fait ? Je t'aime, plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir ?
te plaît, j'aurai le médecin. Je t'offrirai même mes deux reins. Oh, je pourrais tout brûler pour toi. Je t'aime, comment on fait, je t'aime.
Et même après Je t'aimerai, c'était Oshi sur Europe 1.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28 et on pense à vous si vous partez déjà au travail. On vous accompagne jusqu'à 6h30 et au programme de la prochaine demi-heure, Julien.
Une recette qui fait la fierté de Dijon depuis plus de 150 ans. On pense instinctivement tous comme ça à la moutarde. Eh bien non, c'est la crème de cassis qu'Olivier Pouls va nous parler à 6h moins le quart. Et puis on va rester en Côte d'Or pour votre interview, Omblin.
Oui, avec un viticulteur qui représente les vignerons de Bourgogne. Des vignerons qui s'attendent à une vendange 2021 réduite de plus d'un quart. La cause, les aléas météo, on en parle à 5h40.
Et justement, les aléas météo à 5h29, c'est avec vous Anissa Haddadi. Le retour des nuages.
Et oui, les conditions météo, elles changent hein. Aujourd'hui, Julien, elles changent bien. Ça concerne le nord et le nord-est, comme d'habitude. Avec, pour commencer, le retour des nuages, vous le disiez. Alors, dès ce matin, sur le Cotentin, jusqu'en Alsace, en passant par les Hauts-de-France, les Ardennes et la région parisienne, le ciel est très couvert. Dans l'après-midi, dans le nord, sur la Normandie, l'Île-de-France, on aura quelques éclaircies. Les nuages vont se dissiper un petit peu. C'est plus au sud que ça va se compliquer, du centre Val-de-Loire jusqu'en Franche-Comté. Là, le ciel est très sombre, avec quelques averses prévues dans le nord-est. Partout ailleurs, c'est du grand et beau soleil, avec dans le sud le Mistral et la Tramontane qui se lèvent cet après-midi. Et puis sur les côtes varoises et le Cap Corse, vous avez l'habitude, c'est ce vent d'ouest qui va souffler cet après-midi. Alors il faut se couvrir si vous nous écoutez dans l'Allier, parce qu'à Montluçon, on n'a que 6 degrés ce matin, 7 à Charleville-Mézières, 8 pour Guéret, 10 degrés à Châteauroux, 13 à Paris. Et toujours 20 degrés à Nice.
Ah, qui sont agaçants, ces Niçois. Merci beaucoup, Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Votre journal, il est 5h30.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Les dernières heures de la présence française en Afghanistan, la France met fin aujourd'hui au pont aérien avec un dernier vol au départ de Kaboul. Le ralentissement progressif de l'épidémie en France, les principaux indicateurs s'orientent à la baisse, un peu moins de malades dans les hôpitaux, mais la pression s'accentue en revanche sur les soignants qui ne veulent pas se faire vacciner. L'ouverture de l'université d'été de la France Insoumise, 4 jours de débat pour alimenter le programme de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle. Le leader des Insoumis est persuadé que cette fois, c'est la bonne. Et puis l'un des bébés les plus célèbres se retourne contre ceux qui ont fait de lui une star. C'est lui que l'on voit sur la pochette de l'album Nevermind de Nirvana. Il attaque le groupe en justice pour pédopornographie.
Europe 1.
Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien. Bonjour Julien. La France s'apprête à faire décoller un dernier avion depuis Kaboul dans quelques heures. S'en sera terminé du pont aérien destiné à rembarquer le personnel et les Afghans qui ont voulu fuir le régime taliban. Louis Dragnel, comment va s'organiser ce dernier vol et que va faire l'ambassadeur de France David Martinon ?
Alors, vous savez, l'ambassade de France a déjà été évacuée il y a quelques jours. Et aujourd'hui, David Martinon continue d'assurer sa mission de manière très spéciale puisqu'il se trouve avec son équipe au sein de l'aéroport de Kaboul. Dans ce genre de situation de crise où la France se retire d'un pays, ce qui est extrêmement rare, eh bien, normalement, un peu comme le capitaine d'un bateau, l'ambassadeur est le Français qui part en dernier. C'est lui qui ferme la porte et rend les clés. Tout un symbole. S'agissant de son évacuation, donc, je peux vous dire que plusieurs options ont été étudiées. La première, la plus probable, c'est qu'il monte à bord du dernier avion à décoller de l'aéroport de Kaboul, destination Paris. Et pour sa sécurité, un acteur du dispositif raconte « Ça devrait bien se passer car il y a suffisamment de policiers du raid et de militaires des forces spéciales, notamment des commandos de l'armée de l'air ». Ensuite, l'autre option sur la table, c'est que David Martinon rejoigne un autre pays proche de l'Afghanistan où la France est présente pour continuer d'assurer sa mission. Hier soir, c'est donc l'option de l'évacuation depuis un avion vers Paris qui était privilégiée, mais il reste encore quelques heures et dans un contexte aussi instable, tout peut encore changer.
Mais Louis, pourquoi la France ne part pas en même temps que les Américains le 31 août ?
Eh bien, pour deux raisons. Tout d'abord, pour organiser leur repli, les Américains, qui ont encore des milliers de soldats et de personnel à évacuer, eh bien, ils souhaitent que les autres pays aient quitté l'aéroport de Kaboul plusieurs jours avant la date fatidique du 31 août. Ensuite, par prudence, la France, qui considère avoir accompli sa mission, n'a pas très envie de jouer les prolongations jusqu'au dernier moment où la situation sécuritaire pourrait se dégrader.
Louis de Raguenel, au total, près de 90 000 personnes ont pu être évacuées par les Alliés, dont une majeure partie par les Américains, depuis la mise en place du pont aérien le 14 août. Enfin, sachez que l'un des 5 ressortissants afghans placés sous surveillance en France a été condamné à 10 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir respecté la zone de surveillance qui lui était imposée. C'est ce qui lui avait d'ailleurs valu un placement en garde à vue.
En France, la quatrième vague de l'épidémie semble marquer le pas.
Oui, même s'il faut toujours rester prudent, les indicateurs s'orientent lentement à la baisse. Dans les hôpitaux, la pression se fait un peu moins forte. 182 malades admis en unité de soins critiques contre 214 il y a deux jours. La situation reste évidemment plus tendue aux Antilles et en Guyane, où la virulence du variant Delta a obligé les autorités à réagir. La rentrée scolaire est reportée au 13 septembre en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Barthélemy.
Le bout du tunnel n'est peut-être plus très loin.
Et c'est ce qu'affirme le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy. On pourrait en sortir courant 2022. Deux conditions à cela, l'arrivée de médicaments prometteurs d'ici la fin de l'année et une politique de vaccination rigoureuse dans plusieurs pays à la fois.
Et la France qui fait plutôt figure de bon élève en la matière.
C'est vrai, près de 63% des Français sont totalement vaccinés. La pression se fait de plus en plus forte pour convaincre et contraindre les récalcitrants dans les hôpitaux notamment, où le personnel soignant a jusqu'au 15 septembre pour le faire. À l'hôpital d'Armentières dans le nord de la France, la direction ne plaisante pas. Sans vaccin ni passe sanitaire, eh bien le personnel est refoulé. Reportage Maximilien Carlier.
Benoît et Anne-Sophie travaillent au service pédiatrie. Ils sont tous les deux réfractaires à la vaccination. Pourtant, autour d'eux, tout le monde se vaccine, surtout depuis le discours du chef de l'État en juillet.
C'est la pression qu'on subit depuis qu'il y a eu l'annonce. Quand il y a les chefs qui nous demandent, quand il faut présenter, quand ceci... La pression même des collègues qui nous demandent comment on va faire, pourquoi on le fait pas, qu'à un moment donné, il faut le faire.
Car pour ces deux soignants, il n'y a pas assez de recul sur le vaccin. Se faire tester, ils ne veulent pas non plus. Conséquence, depuis vendredi, mise à pied, RTT forcé, imposé, incompréhensible pour Benoît.
J'ai toujours été fidèle au poste, quoi. Et là, sur la base d'une loi, on ne m'autorise plus à venir travailler, alors que je vous le dis, je suis en bonne santé, tout va bien, mais on m'interdit de travailler, c'est-à-dire que quelque part, on me met dehors, quoi.
Alors pour l'instant, pas de retenue sur leur paye, mais ils appréhendent l'avenir, ils pensent à une reconversion.
On m'impose de trouver autre chose, en fait. Parce qu'on ne peut pas vivre sans salaire.
On a un enfant, on a une maison, on a, comme tout le monde, on a une vie, quoi. Donc il y a des milliards de questions qui se posent, quoi.
Et la direction du centre hospitalier dit entendre cette inquiétude, mais insiste aussi, la vaccination est primordiale, indispensable. De la pédagogie, il y en a encore pour quelques semaines. Après, s'ils refusent de se faire vacciner, ils seront considérés comme inaptes au travail et pourraient ainsi être licenciés. Armentières, Maximilien Carlier, Europe 1.
La politique, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, toujours favoris des sondages pour la présidentielle.
La présidente du Rassemblement National et le chef de l'État, qui ne s'est toujours pas déclaré, sortiraient tous deux vainqueurs du premier tour. La droite serait éliminée, quel que soit le scénario. C'est l'un des enseignements de ce sondage Harris Interactive pour le magazine Challenge. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il ne décolle toujours pas. 11% d'intention de vote seulement. La France Insoumise, dont l'université d'été s'ouvre aujourd'hui dans la Drôme, fait comme si de rien n'était. Le leader des Insoumis croit plus que jamais à son destin présidentiel, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, Jean-Luc Mélenchon a beau être à la peine dans les sondages, son image a beau être écornée par différentes polémiques, le chef de file des Insoumis tient la barre, candidat déclaré depuis presque un an. La stratégie en cette fin d'été est claire, puisque LFI a déjà son candidat. Les Insoumis veulent avant tout communiquer sur leur programme. On sait sur quoi on veut gouverner le pays, lance un député, persuadé que la dynamique reviendra de leur côté. La preuve, la contestation dans la rue, les antipasses sanitaires, tous ceux qui critiquent le gouvernement. On est reconnu par les mouvements sociaux, affirme un proche de Mélenchon. La résistance, c'est la base de notre énergie. Ça nous donne une chance, poursuit-il. Une troisième chance pour Jean-Luc Mélenchon, mais il veut y croire. Il espère pouvoir incarner la gauche. Pour l'heure, les écologistes, les socialistes et même les communistes refusent de se rallier derrière son nom. Qu'importe, les Insoumis préfèrent guetter les signaux positifs. Jean-Luc Mélenchon revendique déjà plus de 200 signatures de maire sur les 500 nécessaires pour être officiellement candidat.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Quelle stratégie pour Jean-Luc Mélenchon en 2022 ? On en parle avec mon invité à 6h10, son directeur de campagne, Manuel Bompard, député européen. Il a été l'un des bébés les plus célèbres du monde. C'est lui que l'on voit tout nu sur la pochette du disque Nevermind de Nirvana. Eh bien, il attaque désormais le groupe en justice pour pédopornographie.
Et oui, vous avez reconnu évidemment ce morceau.
Ça ravigote,
ça réveille. Spencer Elden, c'est le nom, Julien, de cet homme âgé de 30 ans aujourd'hui. En 1991, eh bien, il avait 4 mois. Cette photo, ou plutôt cette pochette d'album, va faire de lui effectivement une star. Mais aujourd'hui, il assure qu'il le vit très mal et porte plainte contre le groupe qu'il accuse de pornographie infantile. Explication de notre correspondant aux États-Unis, Alexis Guilleux.
Oui, des parties intimes montrées de manière lascive, une détresse émotionnelle extrême et permanente, c'est ce que dénonce la plainte déposée devant un tribunal de Los Angeles. L'avocat de Spencer Elden va même plus loin, il pointe également la présence d'un billet de 1$ sur cette pochette, faisant passer le bébé pour un travailleur du sexe. L'enfant devenu trentenaire réclame donc 130 000 euros à chacun des 17 accusés, dont les anciens membres de Nirvana. Une somme énorme si on la compare aux 170 euros touchés à l'époque par les parents de Spencer Elden en échange de la photo. Depuis, Nevermind est devenu un album mythique, l'un des plus vendus au monde avec 30 millions d'exemplaires. Dans des interviews ces dernières années, Spencer Elden a plusieurs fois exprimé sa gêne et son sentiment d'avoir été exploité, même s'il a aussi profiter de cette popularité. À plusieurs reprises lors des anniversaires de Nevermind, il a recréé la pochette en plongeant en maillot de bain dans une piscine. Avec cette image en 1991, la bande de Kurt Cobain voulait dénoncer le capitalisme et l'appât du gain. 30 ans plus tard, la boucle est bouclée.
Et voilà, effectivement, la boucle est bouclée. Alexis Guilleux, notre correspondant aux États-Unis.
On passe au foot et pas de Ligue des Champions pour Monaco.
Les Monégasques éliminés en match de barrage après leur nul 2-2 face au Shakhtar Donetsk. Monaco jouera l'Europa League la saison prochaine. Et puis les premières sanctions après les incidents entre Nice et Marseille dimanche soir. Les Niçois joueront leur prochain match à domicile à huis clos. Le préparateur physique de l'OM de son côté est suspendu.
C'était le journal complet et rythmé de Christophe Lamar. Merci Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. C'est en nocturne à Deauville que va se courir ce Quintet. Un marathon sur la distance de 3200 mètres avec 15 partants et non 16. Le numéro 16 ayant déclaré forfait. Difficile de ne pas accorder un très large crédit au numéro 1 Burning Victory qui nous arrive d'Angleterre avec de solides arguments. Son entraîneur Willy Mullins n'effectue jamais un déplacement en France sans avoir quelques certitudes. L'opposition sera constituée de Boss Quentin, le numéro 14, quatrième de cette même épreuve il y a 2 ans et toujours aussi performant actuellement, avec Aristocrate, le numéro 2, probant deuxième pour sa première tentative à ce niveau le 20 juillet à Vichy. Ensuite, je vous recommande Port Deauville, le numéro 8, deuxième de l'édition 2020 et qui semble être à nouveau proche de son meilleur niveau, avec Letit Storm, le numéro 7, pas revu depuis sa troisième place dans un quintet le 4 mai à Chantilly, une absence volontaire en vue de cet objectif. Enfin, les numéros 3, Max La Fripouille, 5, Albir et 6, Flying Beauty, compléteront ma sélection. Mon pronostic, As 14-2. 8, 7, 3, 5 et 6.
Et tous ces pronostics, vous pouvez les retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger et à demain. Vous restez avec nous dans un instant, mon interview actuelle avec Thibaut Hubert. Il est viticulteur en Côte d'Or et il représente les vignerons de Bourgogne. Il y a quelques jours du début des vendanges, eh bien, on parlera des vignobles français particulièrement malmenés cette année par la météo. A tout de suite sur Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
5h41, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bon réveil à tous. On poursuit cette matinale avec votre interview, Omblin. Vous recevez un viticulteur qui, comme beaucoup d'autres, a été fortement impacté par les aléas météo de ces derniers mois. Épisodes de gel historique, sécheresse pour certains, été trop humide pour d'autres, avec pour conséquence les attaques de mildiou. Bref, les vendanges s'annoncent mal. Votre invité, Thibaut Hubert, viticulteur à Meursault, en Côte d'Or, et président de la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne.
Bonjour Thibaut Hubert.
Bonjour.
Pour ce millésime 2021, est-ce que pour vous, on peut d'ores et déjà parler d'année noire pour la viticulture ?
C'est une année compliquée et éprouvante. Noire, quand même pas, mais ouais, vraiment compliquée et éprouvante. On a commencé par cet épisode de gel au mois de fin avril, début mai, là, qui était terrible, qui nous a déjà entamé une grosse partie de la récolte. Suivi de ce mois encore très très froid derrière, qui n'a pas favorisé la pousse de la vigne. Derrière, des périodes de sécheresse et de pluie intense, qui est là, pour le coup, ont favorisé plutôt les champignons et les maladies qu'autre chose. Donc, effectivement, une année très éprouvante pour la viticulture.
Alors, la récolte française de vin pourrait être réduite de plus d'un quart. Ça, c'est ce que nous dit le ministère de l'Agriculture, du jamais vu depuis 40 ans. Est-ce que c'est votre cas ? À combien estimez-vous vos pertes ?
Alors, moi, je m'attends à une demi-récolte. Vous voyez, on va bien au-delà du quart annoncé par le ministère. Pour la Bourgogne en général, hein, puisque moi je représente la totalité des vignerons de Bourgogne, on s'attend au minimum à un tiers de pertes. Mais on sera probablement plus à 40, voire 50% de pertes, donc une demi-récolte, ce qui va être très très dur en termes de stock. Bien évidemment, puisque pas de récolte, pas de bouteilles et pas de chiffre d'affaires.
En Bourgogne, vous avez été particulièrement touché par la vague glaciale. Quelles ont été vos techniques, vos parades pour essayer de sauver le plus de pieds de vigne possible ?
Alors, je crois qu'on a tout essayé hein, en Bourgogne, du nord au sud, hein, de Chablis jusqu'à Mâcon, que ce soit l'aspersion, c'est-à-dire d'essayer de faire une calotte de glace autour des bourgeons pour pas qu'ils gèlent, que ce soit des bougies, que ce soit des câbles chauffants, que ce soit des tours anti-gel, donc c'est des gros ventilateurs pour essayer d'empêcher l'humidité stagnante de geler et de geler les bourgeons. On a vraiment lutté pendant une dizaine de nuits hardi petit pour essayer de sauver ce qui était sauvable. Malheureusement, lutter contre des températures à moins 7, moins 8 degrés comme on a pu avoir, c'était peine perdue. Donc c'est pour ça qu'on fait ce constat d'une demi-récolte. Donc derrière, effectivement, on a eu des conditions climatiques pour un réchauffement, là où tout le monde parle de réchauffement, plutôt pluvieuse et humide. Ça, on sait plus gérer. Donc effectivement, il y a une pression d'odium et de mildiou qui était présente. Mais aujourd'hui, on a les moyens techniques de lutter, que ce soit même en culture biologique ou en culture conventionnelle. Donc c'est moins le problème. Mais c'est cette période de gel et de froid intense qu'a suivi le gel qui nous pénalise fort sur le millésime 2021.
Donc la nature s'est dressée contre ces productions viticoles. Ce millésime 2021 va finalement devoir beaucoup compter sur l'important travail humain.
S'il y a bien un millésime qui est basé sur vraiment l'humain et la lutte humaine qu'on a pu faire par rapport à tous ces aléas, ce sera bien 2021. Maintenant, là, ça fait une quinzaine de jours chez nous où on est sur un vent du nord avec beaucoup de lumière, pas forcément des grosses températures, donc c'est vraiment le temps idéal. On arrive dans la période cruciale des 3 semaines avant vendange qui vont être déterminantes quant à la qualité. Bon, on sait d'ores et déjà qu'on aura un petit millésime en termes de quantité. Par contre, en termes de qualité, ce qui reste, c'est joli, c'est sain. Donc on a potentiellement la possibilité de faire encore un grand millésime d'un point de vue qualitatif, ce qui serait bien d'ailleurs.
Les vendanges, vous venez de le dire, démarrent dans 3 semaines. Qu'en est-il justement de la main-d'œuvre ? Arrivez-vous à recruter facilement pour assurer ces vendanges ?
Alors nous, on estime que pour la Bourgogne, il faut 40 000 vendangeurs. Donc vous voyez, c'est énorme. Hein, donc on est en plein recrutement. On va être fin septembre, hein, puisqu'on prévoit un début de vendange autour du 15 pour les premiers coups de sécateur, jusqu'au 25 pour les derniers qui commenceront. On n'aura malheureusement pas les étudiants, puisque les rentrées universitaires seront faites. On recrute à tout va, on a un site à Bourgogne sur lequel les gens peuvent s'inscrire et postuler pour le faire. Ça se remplit malgré tout. Maintenant, on a le protocole aussi sanitaire hein, qui est en place. Donc ça aussi, ça exige pour toutes les maisons et les vignerons de mettre en place des procédures, d'exiger un pass sanitaire ou au moins des tests PCR pour que tout le monde puisse vendanger sereinement.
Merci Thibault Hubert.
Je vous en
d'avoir
prie.
Accepté
Merci
l'invitation d'Europe 1. Vous êtes viticulteur en Côte d'Or et président de la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne. Merci.
Je vous en prie, au revoir.
5h47 sur Europe 1, lors de notre prescription culture.
Oui, après les séries, la littérature et le cinéma, et bien place à la gastronomie. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
On va partir avec vous chaque jeudi à la découverte du patrimoine gastronomique français. Où nous emmenez-vous cette semaine ?
Eh bien aujourd'hui, direction la Bourgogne, figurez-vous. Alors on connaît évidemment la Bourgogne pour ses grands vins, la ville de Dijon pour sa célèbre moutarde, mais il existe une autre spécialité qui fait la fierté de la ville depuis plus de 150 ans, la crème de cassis. Et je vous emmène à sa découverte, et puis à la rencontre d'une des dernières maisons familiales qui élabore ce produit d'exception dans les règles de l'art. Il s'agit de la maison Gabriel Boudier, fondée en 1874. Alors qu'est-ce que c'est que la crème de cassis ? C'est une liqueur composée, comme vous l'imaginez, de baies de cassis, de sucre et d'alcool. La recette a été mise au point en 1841 par un cafetier dijonnais, Émile Lagoutte. Il utilisait à l'époque les cassis de la région qu'on trouvait généralement au bout des rangs de vignes. Et puis le succès arrivant, il a contribué beaucoup d'ailleurs au développement de la culture du cassis dans la région et même au-delà.
Alors quelle est cette recette, Olivier ?
Ben, elle est très simple, elle est un peu jalousement gardée, hein. C'est toujours celle qui est réalisée par la maison Boudier. En gros, on fait macérer des baies de cassis, du sucre, on ajoute de l'alcool, on récupère les baies que l'on presse et on rajoute ce jus. Tout est question de proportion, de savoir-faire, mais comme pour le bon vin, c'est la matière première qui est fondamentale, et ici ce n'est pas du raisin, mais bien du cassis. Et Claire Bateau, qui est secrétaire générale et quatrième génération dans la maison, nous livre son petit secret sur le cassis, justement.
Il faut un fruit mûr de variété type Noir de Bourgogne ou Royal de Naples ou encore Black Down. Beaucoup d'attention de la part du récoltant. Et ensuite, nous, on travaille sur des fruits immédiatement congelés après la cueillette, de telle manière à les stabiliser et à les utiliser au fur et à mesure de l'année pour pouvoir proposer à nos clients une crème de cassis de Dijon la plus fraîche possible, étant donné que c'est un produit qui s'oxyde rapidement, contrairement au vin qu'il faut garder.
Il en résulte un produit délicieux, très marqué par ce côté cassis, très proche du fruit, bien équilibré entre l'acidité et le sucre, sans lourdeur, et que l'on peut utiliser en cuisine ou pour élaborer le fameux kir, vous le connaissez, hein, ce kir, cette recette que l'on doit à un garçon de café qui l'aurait inventé en 1904 à Dijon, une dose de cassis pour 4 doses de vin blanc d'aligoté. Le kir dont la promotion a été activement faite dès 1945 par le maire de Dijon de l'époque, un certain chanoine Kir, qui a d'ailleurs laissé son nom à la préparation. On peut aussi se servir de cette crème de cassis en cuisine, pour des sauces par exemple, ça marche très très bien avec un magret de canard, ou pour des desserts avec des poires ou des pêches. Bon, à boire comme ça, c'est un peu rude, hein, non pas à cause du degré d'alcool qui n'est pas très élevé, un peu plus de 15 degrés, mais parce que la teneur en sucre est vraiment très importante, autour de 400 grammes.
Oui. Olivier, est-ce que d'autres fruits se prêtent à cette recette ?
Oui, bien sûr. On trouve, par exemple, un très intéressant guignolet à base de guigne. Vous savez, ce sont des petites cerises qui développent une saveur de pâte d'amande. On peut aussi déguster de la framboise, de la pêche, de la fraise. En fait, on peut décliner cette recette à l'infini. L'astuce, c'est toujours le taux de sucre, car il est variable en fonction des fruits et notamment de l'acidité des fruits. Il faut savoir que le cassis étant très acide, c'est une des recettes qui contient le plus de sucre.
Et on les trouve où, ces crèmes de cassis ou d'autres ?
Sur place, évidemment, il y a aussi un site internet qui est marchand pour les commander. Et puis dans quelques belles épiceries, c'est du haut de gamme. Hein, c'est une crème de cassis qui est un peu plus chère que les produits industriels qu'on trouve en grande distribution. Il faut compter un petit peu moins de 20 euros pour une bouteille. Mais alors, quels arômes plonger votre nez dans un verre de cette crème de cassis ? C'est absolument fantastique.
Merci beaucoup, Olivier Pouls.
Oui, et on rappelle que le kir et tout autre alcool est évidemment à consommer avec modération. Merci, Olivier, et à la semaine prochaine.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal permanent à 5h51, l'essentiel de l'actualité de ce jeudi matin avec Élise Dangean à la une, Élise.
Dernière évacuation de Kaboul par la France aujourd'hui avant le retrait des troupes américaines le 31 août prochain. De leur côté, les talibans promettent de laisser partir les civils qu'ils le souhaitent au-delà de cette date via des vols commerciaux. En France, l'Afghan qui est sorti de la zone de surveillance qui lui a été imposée après son arrivée a été condamné à 10 mois de prison avec sursis. Sur le volet sanitaire, la situation s'améliore en métropole. Mais ce temps dans les Antilles, résultat là-bas, la rentrée scolaire est repoussée au 13 septembre. Emmanuel Macron fait sa rentrée européenne en Irlande. Le chef de l'État se rend à Dublin aujourd'hui avec en ligne de mire la future présidence française de l'Union européenne, début de l'année prochaine. Enfin, le match avait pourtant bien commencé. Monaco a été éliminé par les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk hier en barrage retour de Ligue des Champions après leur défaite 1-0 en principauté le 17 août dernier.
Merci beaucoup, Élise Dangean. Prochain journal complet dans un peu moins de 10 minutes. Avec Romain, ok.
Europe Matin.
Et l'actualité de ce jeudi s'écrit aussi dans vos quotidiens régionaux avec un nouveau rendez-vous dans votre matinale sur Europe 1, ce rendez-vous qui s'appelle « C'est en France », un article de la presse régionale raconté par ceux qui l'ont écrit. Et aujourd'hui, Julien, direction l'ouest de la France.
Bonjour Alexandra Turca.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes la chef du service Monde de Ouest-France, où l'on peut lire ce matin un dossier passionnant et déchirant sur la situation en Afghanistan. Vous avez notamment recueilli de nombreux témoignages d'Afghans habitant l'ouest de la France et qui vous racontent le triste quotidien désormais de leurs proches bloqués au pays.
Oui, parce qu'effectivement, avec le réseau des journalistes de Ouest-France implantés dans tout le Grand Ouest, on a vraiment un réseau qui nous permet d'accéder à des informations qui permettent peut-être aux lecteurs de toucher de manière beaucoup plus humaine la réalité de ce qui se passe là-bas que dans les raisonnements géopolitiques qui sont plus distants. Donc là, on a par exemple Boran, qui est réfugié au Mans, qui s'est confié sur son inquiétude pour ses amis à Kaboul, parce que ils savent que l'armée américaine va partir assez rapidement, et donc ils disent pour le moment c'est calme, mais ils ne savent pas ce qui se passera une fois que les soldats sont partis. Il y a aussi Ali qui témoigne à Saint-Brieuc, qui dit « Ma femme et ma mère vivent cachées à Kaboul depuis 2 ans, et il n'a pas réussi à obtenir une réunification familiale, alors que lui est réfugié chez nous. »
Et, donc, et puis il raconte notamment qu'elle ne peut plus sortir de chez elle parce qu'elles ne peuvent pas s'offrir un voile intégral.
Et oui, parce que ça va jusque-là, en fait. Les gens sont très démunis économiquement, surtout pour ceux qui sont réfugiés et qui ont quitté l'endroit où ils habitaient habituellement. Ils ont plus de ressources. Et là, en plus, effectivement, elles ne peuvent même pas se payer ce voile intégral, dont le prix s'est envolé depuis l'arrivée des talibans, hein, puisqu'il dit que ça coûte aujourd'hui 5000 afghanis contre 700 avant qu'ils ne reviennent. Elles ne peuvent pas sortir. C'est un voisin qui leur fait leurs courses. Elles peuvent à peine manger, sans doute aussi pour des problèmes économiques qu'elles ont. Et puis, on a aussi des témoignages d'exactions. Hein. On commençait à en avoir ces derniers jours. Alors, il y a par exemple les Afghans Hazara. Hein. C'est une ethnie que les talibans n'acceptent qu'une vision de l'islam, et donc une ethnie religieuse, une minorité religieuse dont ils ne veulent pas. Et donc, il y a des exactions qui sont commises, des femmes kidnappées, des hommes tabassés, des bébés décédés. C'est une chercheuse qui a été interviewée par une des journalistes de Ouest-France qui dit qu'elle exagère absolument pas, que ça paraît surréaliste, mais que c'est vraiment ça qui est là. On a aussi Rama, qui est réfugiée à Cholet, qui témoigne sur sa sœur, qui était directrice d'une école pour filles. C'est clairement des métiers extrêmement exposés aujourd'hui. Et elle dit, à la rentrée, c'est sûr, elle va perdre son travail. Et puis, on a peur des représailles. Il y a Najiboula, qui a été interviewée dans la jungle de Cherbourg, hein, aujourd'hui, par les journalistes de Ouest-France, là-bas. Mon frère me dit qu'il n'y a plus rien. Les écoles sont fermées, les magasins, les banques aussi. Tout est désert. Il y a des coupures d'électricité tous les jours. Donc, en fait, on imagine, ça doit être assez terrifiant. Ils n'étaient pas non plus dans un pays parfaitement calme avant, mais là, ils doivent vivre un cauchemar éveillé en réalité.
Oui, le chaos afghan raconté par ces Afghans qui habitent l'ouest de la France et que vous avez pu rencontrer. Merci beaucoup Alexandra Turca d'avoir été en ligne avec nous ce matin, de nous avoir raconté ce dossier sur la situation en Afghanistan, à lire donc aujourd'hui dans Ouest-France. Bonne journée à vous et à très bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Avant-hier, les Rolling Stones ont perdu leur batteur, l'un des meilleurs batteurs de tous les temps, Charlie Watts. Et vous l'entendez, Charlie Watts aux côtés de Mick Jagger et de Keith Richards, chanson inédite des Stones sur Europe 1, Living in the Heart of Love.
Never.
C'était Living in the Heart of Love, chanson inédite des Rolling Stones, dévoilée il y a tout juste une semaine pour fêter les 40 ans de l'album Tattoo You.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h58, très bon réveil à tous. À l'écoute d'Europe 1, voici le programme de la prochaine demi-heure, Omblin.
Avec pour commencer votre interview actuelle, Julien, vous recevez dans une dizaine de minutes Manuel Bompard, député européen à la France Insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon qui organise à partir d'aujourd'hui ses journées d'été.
Mélenchon, personnalité politique la moins appréciée des Français. Comment les Insoumis comptent-ils inverser la tendance à 8 mois de la présidentielle ? Réponse juste après le journal. Et puis à 6h20, Omblin, votre partition.
Sa carrière est faite de haut et de bas, une carrière solo courte mais intense avec un seul album, la partition de Lauryn Hill.
Elle, sa carrière est longue et intense également.
Évidemment.
Anissa Haddadi,
très
pour la météo. Le soleil brille presque partout, sauf dans l'extrême nord.
Oui, les conditions météo changent un petit peu aujourd'hui dans le nord et dans le nord-est, avec pour commencer le retour des nuages. Donc dès ce matin, du Cotentin jusqu'à l'Alsace, en passant par les Hauts-de-France et les Ardennes, là le ciel est très couvert. Dans l'après-midi, dans le nord, la Normandie et l'Île-de-France, quelques éclaircies réussiront à percer. Et puis un petit peu plus au sud, hein, sur le centre Val-de-Loire et jusqu'en Franche-Comté, là le ciel est vraiment très très sombre cet après-midi, avec même quelques averses prévu dans le nord-est, partout ailleurs. Donc ça veut quand même dire sur les deux tiers du pays, c'est du grand et beau soleil, avec une journée encore anticyclonique, avec dans le sud le Mistral et la Tramontane qui se lèvent cet après-midi, et puis sur les côtes varoises et le Cap Corse, ce vent d'ouest qui souffle jusqu'à 70 km/h. Alors, il faut quand même ce matin noter que les températures vont baisser. On aura 6 à 19 degrés du nord au sud, et cet après-midi, comptez 19 à 32 degrés. Il y a une grosse différence entre le nord
grosse
et le sud.
Grosse amplitude quand même. Mmh. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous. C'est le journal. Il est 6h.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Le compte à rebours en Afghanistan, avant la fin des vols vers la France. L'Allemagne, de son côté, négocie avec les talibans qui promettent de poursuivre les évacuations après le départ des Occidentaux. L'Afghan évacué en France et soupçonné d'être proche des talibans a été condamné hier à 10 mois de prison avec sursis. Le trentenaire avait violé son assignation à résidence. Une semaine avant les élèves, Jean-Michel Blanquer fait sa rentrée ce matin. Conférence de presse pour détailler le protocole sanitaire. Alors que les fabricants de capteurs de CO2 croule sous les commandes. Et puis à la fin de ce journal, on embarque à bord d'un voilier cargo. C'est le défi fou d'une entreprise qui mise sur l'import-export zéro carbone. Et le journal de 6h vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Dans 24 heures, les avions militaires français auront quitté le ciel de Kaboul. Dernière ligne droite, dernières heures, donc avant la fin des évacuations vers la France. 2400 personnes sont déjà parties vers Paris. La Belgique a déjà stoppé ses rotations. Des rapatriements qui s'accélèrent avant le départ des Américains. Mardi prochain, date butoir fixée par les talibans.
En Europe, un pays, en revanche, est à la manœuvre pour dialoguer, négocier. Même avec les nouveaux maîtres de Kaboul, il s'agit de l'Allemagne.
Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin et l'objectif de la chancellerie, c'est de pouvoir évacuer des civils jusqu'au dernier moment.
C'est pour cela que le gouvernement allemand négocie actuellement avec les talibans. Angela Merkel l'a dit hier devant ses députés, les talibans sont une réalité en Afghanistan. Cette réalité est amère, mais nous devons nous y confronter. Les discussions se déroulent à Doha, au Qatar, et la diplomatie allemande affirme avoir décroché hier un engagement fort des talibans. Selon cet accord, le nouveau régime promet de laisser sortir des civils du pays, même après le départ des Occidentaux, avec des vols commerciaux, mais seulement ceux qui auront des papiers en règle. Officiellement, les Allemands disent qu'ils resteront sur place tant que c'est possible, c'est-à-dire tant que les Américains sont à Kaboul. Mais en pratique, les soldats allemands pourraient quitter le terrain dès vendredi, révèle la presse de ce matin. La presse qui pointe les contradictions du gouvernement Merkel, très à la peine sur ce dossier. Depuis deux semaines, Berlin a cherché plusieurs fois à présenter la situation à son avantage. À un mois tout juste des élections, le fiasco de l'Afghanistan pourrait fortement ternir le bilan de la chancelière. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Et en France aussi, la crise afghane embarque embarrasse l'exécutif. Parmi les rapatriés, un homme soupçonné d'être proche des talibans avait été placé en garde à vue pour ne pas avoir respecté son assignation à résidence à l'hôtel où il était hébergé.
Et hier soir, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à 10 mois de prison avec sursis. Un avertissement extrêmement sérieux a prévenu le tribunal. Gladys Laffitte, vous étiez à l'audience. Qu'a dit cet homme de 30 ans pour se défendre ?
Eh bien, tout simplement que ce jour-là, il était malade et que l'un des résidents de l'hôtel lui a proposé de l'emmener acheter des médicaments près d'une épicerie où il avait ses habitudes dans le 18e arrondissement de Paris. L'accompagnant indique que l'Afghan voulait acheter des cartes SIM. Devant le tribunal, cet homme de 30 ans, polo gris, barbe coupée sous son masque, explique d'un ton posé qu'il n'avait pas compris le sens de cette mesure de surveillance. Une version qui a plusieurs fois changé, lui rappelle la présidente, qui a souhaité tout de même tenir compte dans son jugement du contexte de l'arrivée du prévenu sur le sol français, maître Alice Waknin et son avocate.
Lui indique qu'il ne s'était pas vu notifier cette décision qui lui interdisait de quitter Noisy-le-Grand. Je crois qu'il ne comprend pas très bien ce qui se passe, en tout cas, effectivement, si en plus de tout cela, il est malade comme il l'indique, je crois que c'est une situation qui est un peu compliquée pour lui.
Alors si l'objet de cette audience n'était pas de savoir ou non si l'homme a des liens avec les talibans, il s'en est tout de même défendu, expliquant qu'en Afghanistan, il était procureur, que son père était policier depuis 35 ans et donc que leur vie était en danger. « Jamais je ne ferai quelque chose contre votre pays », a-t-il dit. Il souhaite maintenant obtenir l'asile pour vivre ici en France avec ses proches, dont sa femme et sa fille de 3 mois.
Merci Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Dans le reste de l'actualité judiciaire, ce mystère toujours entier dans la Sarthe, 3 jours après la découverte des corps de 3 bébés. Charles Guyard, une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.
Oui, effectivement, il s'agit des corps de 3 nouveau-nés et c'est l'occupant des lieux qui, en faisant du rangement, les a trouvés emballés dans des sacs plastiques à l'intérieur d'un meuble dans une annexe de sa propriété. C'est lui-même qui a ensuite prévenu les gendarmes. Hier soir, le parquet du Mans a ouvert une information judiciaire contre X pour homicide volontaire de mineurs de 15 ans. Et c'est ce X, désormais, que les enquêteurs vont tenter, bien sûr, d'identifier avec l'aide des légistes. Car rien n'indique pour l'instant que le couple qui vivait là est concerné par cette macabre découverte. Un couple qui s'était formé il y a une dizaine d'années et dont la femme, déjà 2 fois maman d'une précédente union, est décédée cet été des suites d'une maladie. À 44 ans, elle n'avait pas eu d'autres enfants avec son nouveau compagnon. Était-elle néanmoins tombée enceinte ces dernières années ? À nos confrères de Ouest France, un voisin indique que si cela avait été le cas, il ne s'était aperçu de rien. Le juge d'instruction saisi de l'affaire a ordonné des comparaisons ADN avec l'ensemble des occupants actuels et passés de la maison. Pour l'heure, aucune garde à vue ni mise en examen n'a été signifiée.
Le récit de Charles Guyard, correspondant dans l'Ouest pour Europe 1.
6h05 sur Europe 1, la suite de votre journal Romain Hockey. Et avant les 12,4 millions d'élèves la semaine prochaine, Jean-Michel Blanquer va faire sa rentrée ce matin, la première sous l'ère du variant Delta.
Une rentrée scolaire normale avec la fermeture de moins de classes possible, c'est le pari du ministre de l'Éducation nationale qui tient une conférence de presse aujourd'hui. Il détaillera le protocole sanitaire qui sera appliqué dans les établissements scolaires dès jeudi prochain.
Et le week-end dernier, dans les colonnes du journal du dimanche, Jean-Michel Blanquer avait évoqué la généralisation des capteurs de CO2 dans les classes. Et justement, pour cette rentrée, les fabricants croulent sous les demandes. Caroline Baudry.
Un petit boîtier blanc et bleu qui sonne quand l'air d'une pièce doit être renouvelé. Depuis le début de la crise sanitaire, c'est l'un des produits phares vendus par Pirescom. Et à l'approche de la rentrée, la demande a explosé, explique Jean-François Pacouille, directeur commercial de l'entreprise.
Mais en termes de sollicitation, on est plutôt sur 6-7 focus par rapport au début d'année. Le réassort des stocks avait été quand même évalué il y a quelques mois. Donc pour l'instant, on n'est pas impacté sur des risques de rupture, on va dire. Maintenant, les délais de livraison risquent de s'allonger un petit peu, donc tout le monde aura certainement pas ces capteurs pour la rentrée ou le premier jour de la rentrée, mais on va faire en sorte de livrer un maximum d'établissements sur les 15 jours ou les 3 premières semaines de septembre.
Pour tenir la cadence, Thierry Ricci a carrément fait une croix sur la fermeture estivale de son entreprise. Il dirige Natéo Santé, spécialisé dans les capteurs de CO2.
Et on reçoit entre 20 et 30 demandes par jour des collectivités locales. Ça vient de toute la France. Des communes de 700 habitants comme des communes qui font 20, 30 000 habitants. Et l'idée, c'est vraiment toujours de pouvoir satisfaire nos clients, notamment dans cette situation d'urgence.
Une urgence qui a poussé l'entreprise à se réorganiser. Du nouveau matériel a été acheté et de nouvelles recrues accueillies dans les bureaux.
Caroline Baudry.
Et avant de vous plonger dans la rentrée scolaire, vous profitez peut-être de vos derniers jours de vacances. Tendez l'oreille. Si vous êtes du côté de Dunkerque, dans le Nord, vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, monter à bord d'une embarcation d'un nouveau genre, un voilier cargo.
Oui, c'est le défi fou de l'entreprise Grain de Sel, spécialisée dans la production de café et de chocolat équitable. L'équipage mise donc sur l'import-export neutre en carbone. Maximilien Carlier a visité le navire en exclusivité pour Europe 1.
C'est un voilier avec deux mâts, deux mini-éoliennes, des panneaux solaires à l'arrière, des hydrogénérateurs pour l'électricité. Loïc Briand, le capitaine.
C'est le seul bateau sur lequel j'ai jamais navigué où on n'a pas de vibration parce qu'on n'a aucun moteur à tourner. Aujourd'hui, quand on part en mer, on éteint le moteur.
Zéro carburant, ou presque, sauf pour sortir et rentrer des ports. La traversée de l'Atlantique est plus longue, 4 semaines.
C'est deux fois plus qu'un cargo. Après, l'idée, c'est pas de courir et d'aller le plus vite possible, c'est de le faire déjà. Et c'est d'arriver à le faire de façon cohérente.
Dans la cale, 50 tonnes de marchandises stockées, du vin bio est exporté à New York, direction les Caraïbes, l'Amérique du Sud ensuite, pour récupérer cacao, grains de café, puis retour dans les sites de torréfaction en France. D'ici fin 2023, un atelier va ouvrir à Dunkerque. Jacques Barrault, directeur général de Grainsel.
C'est une région qu'on aime beaucoup, mais qui est aussi géostratégique, puisque Dunkerque permet de pouvoir commercialiser à la fois sur le nord de la France, la région parisienne, et voire même la Belgique et l'Angleterre.
Une entreprise écologique, durable et solidaire également. Une trentaine d'emplois vont être créés ici, avec notamment des travailleurs en situation de handicap. Dunkerque, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et ce voilier cargo, vous pouvez donc le visiter gratuitement dès aujourd'hui et jusqu'au 11 septembre dans le port de Dunkerque.
Merci beaucoup Romain Oquet pour ce journal.
On passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et le journal des sports, c'est avec Martin Lange. Et on commence avec la désillusion de Monaco, Martin.
Oui, les Monégasques qui ont cru hier soir. Ils menaient 2-0 à la mi-temps. Mais les Ukrainiens de Donetsk sont revenus pour arracher le match nul de partout en prolongation. Les coéquipiers de Wissam Ben Yedder, auteur d'un doublé, pourront regretter le nouveau règlement de l'UEFA qui a mis fin cet été à la règle du but à l'extérieur qui les aurait qualifiés hier soir, et ils devront se consoler avec la Ligue Europa. Il n'y aura donc que deux clubs français en Ligue des Champions. Le tirage au sort a lieu aujourd'hui, 18h à Istanbul. Simon Rubin, on sait à quoi Lille et le PSG peuvent s'attendre ?
Oui, alors c'est un peu le monde à l'envers, puisque cette année, Paris n'est pas dans le premier chapeau, celui des têtes de série, mais c'est bien Lille qui a cette chance en tant que champion de France en titre. Conséquence, le PSG affrontera forcément l'un des cadors suivants, Chelsea, Manchester City, Bayern Munich, Atlético de Madrid, Inter Milan, Villarreal ou le Sporting. Les deux derniers cités étant nettement plus abordables. Paris, qui pourrait aussi croiser la route de l'Ajax d'Amsterdam ou de l'Atalanta Bergame, du Benfica ou encore de Leipzig. Là encore, ce sont des équipes qui ont une belle expérience européenne. En revanche, les Parisiens sont assurés d'éviter le Real ou Barcelone. Et pour Lille, du coup, c'est l'inverse. Les nordistes peuvent tomber sur le Real Madrid ou bien sur le Barça, mais également sur la Juventus de Turin ou bien encore sur Liverpool. Ce ne sera donc pas un tirage évident pour eux non plus.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
Et le PSG qui pourrait se résigner à laisser partir sa star, Kylian Mbappé.
Oui, c'est ce qu'a laissé entendre Leonardo hier. Si un joueur veut partir, il va partir, estime le directeur sportif. Mais l'offre du Real reste pour l'heure insuffisante. Et puis toujours au volet des transferts, je vous en parlais hier, le grand retour d'Adil Rami en Ligue 1. 2 ans après son départ de Marseille, le défenseur a été présenté à 3 hier et il n'a pas perdu son sens de l'humour. Écoutez.
Ça fait plaisir. Vous avez Messi, vous avez Rami. La Ligue 1, c'est costaud. Je sens un petit peu d'engouement. Je sais que ça fait parler. Mais maintenant, c'est à moi d'être focus. C'est bien beau de porter le maillot de l'Estac, de revenir en Ligue 1. J'ai beaucoup de félicitations. Maintenant, j'attends qu'une chose. C'est de retrouver mon niveau à 100%. J'y suis pas loin. Mais surtout de prendre du plaisir et de marquer des buts et puis de gagner des matchs. Et puis voilà, je vais vivre pour le football, donc je suis impatient de tout ça.
Adil Rami au micro Europe 1 de Damien Ardoy.
Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
La commission de discipline de la Ligue qui sévit déjà à l'encontre de Nice après les incidents de dimanche lors du match contre l'OM, elle a ordonné un huis clos à titre conservatoire ce week-end contre Bordeaux. Le résultat définitif de l'instruction sera dévoilé le 8 septembre. Les deux premières médailles françaises aux Jeux paralympiques, le bronze pour Marie Patouillet en cyclisme sur piste et l'argent pour Hugo Didier en natation. Et puis enfin, les volleyeuses françaises qualifiées pour les huitièmes de finale de l'Euro après leur victoire contre l'Azerbaïdjan hier, une première depuis 2013.
Le journal des sports sur Europe 1, signé Martin Lange. Merci Martin.
6h12, restez avec nous, je reçois dans un instant Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, au plus bas dans les sondages à 8 mois de la présidentielle. Inquiétude qui sera à coup sûr au cœur des discussions des journées d'été de la France Insoumise qui débute aujourd'hui. A tout de suite sur Europe 1.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Il est 6h13, votre matinale se poursuit avec l'interview Actu sur Europe 1. La France Insoumise organise à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche ses journées d'été à Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence. Quelle stratégie pour le mouvement de Jean-Luc Mélenchon à 8 mois de la présidentielle? Pour en parler, Julien, vous recevez ce matin Manuel Bompard, député européen de la France Insoumise, directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon.
Bonjour Manuel Bompard.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Alors que les Verts et les Socialistes n'ont pas encore désigné leur candidate ou candidat pour 2022, quel est l'objectif de vos journées d'été? C'est montrer les muscles et prendre de l'avance sur vos concurrents à gauche?
C'est surtout démarrer une nouvelle phase de notre campagne présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a proposé sa candidature au mois de novembre dernier. Il a aujourd'hui le soutien de plus de 240 000 personnes. Et l'objectif en cette rentrée, c'est maintenant de partir sur ce que nous avons appelé l'union populaire, c'est-à-dire la nécessité de s'adresser au plus grand nombre autour de notre programme, de nos propositions politiques pour le partage de la richesse, la transition écologique, la rénovation démocratique, pour faire en sorte de réunir une majorité des Françaises et des Français au mois d'avril prochain. Donc c'est le temps maintenant du programme et de la conviction sur le fond, en particulier vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans le monde politique tel qu'il est aujourd'hui, qui hésitent à aller voter et qui peuvent trouver, je crois, autour du bulletin de vote de Jean-Luc Mélenchon, des raisons d'espérer.
Vous êtes l'une des rares forces politiques où il n'y a aucun débat interne, aucune primaire pour désigner la personnalité qui vous représentera en 2022. Ce sera Jean-Luc Mélenchon, point barre. Il n'y a pas de démocratie à la France Insoumise ?
Ben écoutez, les débats, ils ont eu lieu. C'est-à-dire qu'avant que Jean-Luc Mélenchon propose sa candidature, bien évidemment, nous en avons parlé collectivement, les différents parlementaires de la France Insoumise, l'ensemble du mouvement qui a été consulté, les différents groupes d'action du mouvement qui ont pu donner leur point de vue sur le sujet. Mais à partir du moment où on a considéré collectivement que Jean-Luc Mélenchon était la personne la mieux placée pour nous représenter, eh ben, nous avons choisi et nous avons fait en sorte que ce soit lui notre candidat. Mais bien évidemment, nous en discutons, nous en débattons, nous réfléchissons ensemble à la stratégie à mettre en œuvre dans cette campagne. Mais vous savez, la démocratie, c'est pas inventer des conflits de personnes quand ils n'existent pas. À la France Insoumise, nous sommes d'accord sur le programme, nous sommes d'accord pour que Jean-Luc Mélenchon soit notre candidat. Nous considérons qu'il est le mieux placé pour nous représenter. Et nous sommes maintenant en campagne, pas seulement entre nous, mais pour convaincre les Françaises et les Français.
Sauf que Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi à accéder au second tour lors des deux dernières élections présidentielles et qu'il est désormais la personnalité politique la moins appréciée des Français, moins de 30% d'opinion favorable.
Mais Jean-Luc Mélenchon, la dernière fois, a fait près de 20% des voix à l'élection présidentielle. Oui, nous n'étions pas au second tour, c'est vrai, mais nous n'en étions pas bien loin. Et si un an avant l'élection présidentielle de 2017, nous avions dit nous allons finir à près de 20% des voix, je pense que beaucoup d'entre vous n'y auraient pas cru. Donc vous voyez, nous partons aujourd'hui dans cette campagne avec un programme qui, lui, si vous regardez les différentes enquêtes d'opinion, puisque vous me parlez de sondages, est soutenu très majoritairement par la population. C'est 8 personnes sur 10 qui sont pour rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est 6 personnes sur 10 qui sont pour la 6e République, c'est 7 personnes sur 10 qui sont pour le retour à la retraite à 60 ans, pour prendre quelques exemples. Et bien ça, c'est des propositions que seul Jean-Luc Mélenchon porte aujourd'hui dans le débat public. Et donc je crois que si nous sommes en capacité de convaincre sur le programme, sur les propositions, alors nous pouvons faire en sorte cette fois d'être présents au deuxième tour.
Il y a un problème malgré tout, c'est que tous les partis de gauche veulent y aller à la présidentielle, même les communistes qui vous avaient soutenu lors des deux précédentes élections. Comment être au second tour s'il n'y a pas d'union ?
Mais je crois que cette dispersion dont vous parlez, qui est une réalité, elle a effectivement des inconvénients, mais elle n'est pas la difficulté principale. La difficulté principale, c'est qu'aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, le total de ce qu'on appelle la gauche est trop faible. Le problème n'est pas le nombre de candidatures, le problème est le total que font ces candidatures. Et je crois donc que l'enjeu, en tout cas nous, c'est ce que nous souhaitons, c'est de convaincre des personnes qui aujourd'hui n'envisagent pas d'aller voter parce qu'elles ne sont pas convaincues, parce qu'elles ne retrouvent pas dans les programmes, dans les propositions, des raisons de se mobiliser, d'aller voter, comme on l'a vu notamment lors des dernières élections régionales et départementales. Et donc l'enjeu, c'est celui-là. Ensuite, il y a des gens aujourd'hui qui proposent des candidatures à cette étape. On verra ensuite comment les choses vont évoluer. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons un programme, une assise populaire, plus de 240 000 personnes, je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons un candidat qui, je crois, a fait ses preuves. Et donc, nous allons continuer à faire ce travail de conviction sans nous affronter aux autres. À gauche, vous voyez, il y a des divergences, il y a des points de désaccord. L'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de convaincre autour de notre programme. C'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines et dans les prochains mois.
Et justement, j'ai vu que deux candidats à la primaire des Verts allaient participer aux différents débats de vos journées d'été, Sandrine Rousseau et Éric Piolle. C'est l'occasion d'un éventuel rapprochement, de discussion ?
Bah, c'est d'abord l'occasion d'un débat, d'une discussion. Ils viennent effectivement, notamment pour débattre autour de notre positionnement vis-à-vis de l'Union européenne, parce que ça fait partie justement des sujets sur lesquels, entre les candidats qui sont candidats à la primaire écologiste aujourd'hui et notre famille politique et notre programme L'Avenir en Commun, il y a des points de désaccord ou de divergence, ou en tout cas des points qui méritent débat et discussion. Ensuite, la primaire des écologistes aura lieu, c'est le choix qu'ils ont fait pour l'instant. Il est clair qu'il y a, dans ce que peut porter Sandrine Rousseau et Éric Piolle, des éléments qui sont des éléments de convergence avec
donc
les propositions politiques que nous pouvons formuler. Bah, en tout cas, la porte est ouverte parce que, encore une fois, la question n'est pas une question de personne, elle est une question de programme, de proposition, d'orientation. Jean-Luc Mélenchon porte une orientation qui est une orientation de rupture avec le système actuel. Et les candidats qui portent une même orientation de rupture sont les bienvenus pour échanger, travailler avec nous dans les prochains mois.
Manuel Bompard, la candidature du Parti communiste, j'aimerais y revenir, elle pose un autre problème à la France insoumise, celui des 500 parrainages d'élus qu'il faut avoir pour se présenter. Le PCF vous aura porté beaucoup, d'où ma question, est-ce que Jean-Luc Mélenchon pourra-t-il seulement être candidat ?
Bah, écoutez, pour l'instant, nous avons commencé ce travail de collecte des 500 parrainages. Nous le faisons sérieusement, patiemment. Nous en avons déjà réuni au début de l'été plus de 200. Donc, nous sommes quasiment aujourd'hui à la moitié du chemin. Donc, c'est un travail. Il n'est pas évident, mais c'est un travail sur lequel on a des bonnes raisons d'être optimiste. Vous savez, la dernière fois, nous avions réuni les 500 parrainages sans le concours des élus communistes qui étaient arrivés bien plus tard dans la campagne. Donc, je ne crois pas que ça soit une difficulté aujourd'hui pour Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise d'être représentés à l'élection présidentielle. Et j'ai envie de vous dire heureusement, parce qu'un candidat qui a fait plus de 19% des voix en 2017, ce serait quand même une vraie difficulté démocratique qu'il ne puisse pas se présenter. C'est d'ailleurs pourquoi nous avions proposé de substituer à ce système de 500 parrainages une investiture citoyenne que Jean-Luc Mélenchon a proposée. Et c'est pourquoi il a réuni 240 000 parrainages citoyens. Je crois que ça démontre que les idées qu'il porte ont un écho certain dans le pays.
Merci beaucoup Manuel Bompard d'avoir
Merci
été avec nous ce matin, député européen. La France Insoumise qui organise donc à partir d'aujourd'hui ses journées d'été à Châteauneuf-sur-Isère, c'est près de Valence. Très bonne journée à vous et à bientôt
sur
Europe 1.
Vous restez avec nous dans un instant, les grands titres de l'actualité de ce jeudi 26 août et de la musique, bien sûr, pour un réveil forcément réussi. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
6h et bientôt passé de 22 minutes sur Europe 1, l'actualité en temps réel avec le journal permanent d'Élise Dangean.
Les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni appellent leurs ressortissants à s'éloigner au plus vite de l'aéroport de Kaboul en raison de menaces terroristes mises en garde simultanée des trois pays cette nuit. La France, elle, effectuera aujourd'hui sa dernière évacuation. Au total, elle a déjà exfiltré 2400 personnes. Jean-Michel Blanquer au défi d'une nouvelle rentrée sous crise sanitaire. Le ministre de l'Éducation nationale va présenter aujourd'hui les contours de cette rentrée. Le ministre est par ailleurs attendu sur la question des salaires des professeurs. Aux Antilles, où l'épidémie flambe, la rentrée scolaire a été reportée au 13 septembre. Et puis, trois jours après le match Nice-Marseille qui a tourné au pugilat, la commission de discipline de la Ligue a dévoilé ses premières sanctions. Le prochain match de Nice, samedi, se tiendra à huis clos. Le préparateur physique de l'OM, lui, est suspendu pour avoir frappé un supporter niçois. Prochaine sanction annoncée le 8 septembre prochain.
Merci beaucoup, Élise Dangean. Prochain journal complet dans tout juste 7 minutes. Ah, voilà le jingle que l'on attendait tous à 6h23 sur Europe 1. Votre partition, ma chère Omblin Roche, avec ce matin une artiste qui a réalisé ce coup de maître, entrée dans la postérité dès son premier album. Il s'agit de la chanteuse Lauryn Hill, mais comme souvent, tout n'est pas aussi rose derrière l'engouement mondial et les récompenses. Il existe autour de l'enregistrement de ce disque un côté obscur, nettement moins glorieux entre scandale et controverse.
Oui, c'est peut-être ce qui rend cet objet encore plus unique, Julien. Rien n'est lisse quand il est question de The Miseducation of Lauryn Hill. Oui, la chanteuse n'en fait qu'à sa tête et le résultat est prodigieux. Entre rap et chant gospel, il y a du R&B, du reggae, de la soul et ça fonctionne, l'harmonie règne. Lauryn Hill réconcilie hip-hop et musique mainstream. Comprenez, une musique appréciée par le plus grand nombre.
Un mot du coup. contexte. On est en 1996 avec son groupe The Fugees et l'album The Score. Lauryn Hill vient de connaître un succès planétaire.
Une gloire si soudaine et si destructrice à la fois pour ces jeunes gens d'à peine 20 ans. Entre la chanteuse et ses deux complices, Wyclef Jean et Pras Michel, rien ne va plus. Les relations se délitent. Les différents artistiques deviennent criants.
Les Fugees implosent. Mmh. Lauryn Hill se retrouve seule face à ses démons.
Paranoïaque, elle est persuadée que l'influent Wyclef Jean lui met tout le milieu à dos. On n'a jamais vraiment eu le fin mot de l'histoire, mais on apprendra plus tard que tous les deux avaient été amants. Et puis Lauryn Hill est secrètement enceinte de son nouveau compagnon, Juan Marley, le fils de Bob. Cette grossesse agit comme un déclencheur, un catalyseur d'inspiration et lui fait prendre un nouveau départ. Zion avec à la guitare, vous le reconnaissez ?
Carlos Santana.
Et évidemment.
On reconnaît le toucher. The Miss Education of Lauryn Hill est une autobiographie écrite en temps réel.
Au fil des pistes, on suit l'existence de la chanteuse. C'est la capture d'écran de sa vie en 1997 et 1998. Et au-delà de ça, The Miss Education est imprégnée de l'époque, mais sans jamais devenir obsolète les décennies suivantes.
Il est enregistré entre New York et Kingston, en Jamaïque, et avec de parfaits inconnus en guise de musiciens.
Oui, le groupe Newark, jamais vu, jamais entendu, mais embauché pour participer à l'écriture et pour produire l'album. Les Newark seront au centre d'un des scandales à propos du disque, Lauryn Hill n'ayant pas pris la peine de les créditer en bonne et due forme. Et puis il y a aussi Ras Baraka, qui tel un professeur fait résonner sa voix entre les titres et parle d'amour.
How many people know any songs about love?
Right here, I know a lot about love.
Tell me some time.
L'amour, c'est ce qui est au centre de l'œuvre de Lauryn Hill.
Oui, pour son enfant, l'amour de Dieu, l'amour qu'elle porte à sa ville natale de South Orange dans le New Jersey. The Miss Education of Lauryn Hill va rabattre les cartes du genre hip-hop et valoir à la chanteuse la reconnaissance de ses pairs à la cérémonie des Grammy Awards. Called you again. Remember when he told you he was about the Benjamins? Yeah. You act like you ain't him. They give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel. Who you gonna tell when the repercussions spin? Lauryn Hill avec son succès planétaire Do Up That Thing, récompensé aux Grammy Awards aux États-Unis en 1999, notamment meilleure chanson R&B, cet extrait de l'album The Miss Education of Lauryn Hill.
Merci beaucoup, Omblin Roche, pour cette nouvelle partition.
Europe Matin.
6h28, l'heure pour nous, Omblin, de vous dire à demain. On sera là à 5h pétante.
Oui, d'ici là, restez sur Europe 1. Votre matinale se poursuit avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Omblin, bonjour Julien.
Bonjour Dimitri.